Avec Bruno Dubic, bonjour.
Rendez-vous 11h, Dominique Delaroye. Et oui, on discute déjà en studio. Le thème du jour, l'éducation positive ou bienveillante, qu'apporte-t-elle aux enfants et aux parents? Est-ce que c'est une théorie fumeuse ou une vraie révolution dans la manière d'élever nos enfants? En tout cas, elle rencontre beaucoup de succès en livres, sur les forums internet, dans la presse parentale et même dans des ateliers où des parents à bout viennent chercher des solutions.
Alors, je vous entendais dire que vous criez souvent. C'est un problème pour vous?
Je crie pas souvent, je crie tout le temps. Mes enfants, c'est deux garçons, ils ont bientôt 11 et 13 ans. Dans l'atelier, on nous propose de parler d'une situation, il y en a pas mal, mais celle qui me fatigue, entre guillemets, le plus, c'est que mes enfants ne veulent pas dormir le soir. Des fois, j'arrive à ne pas me mettre en colère, mais le problème, c'est que c'est tous les soirs. Moi, j'ai envie de me coucher, de bouquiner, j'ai mal au dos, donc j'ai envie de m'allonger, et eux, ils ont pas envie, ils sont en pleine forme.
Et qu'est-ce que vous attendez de cet atelier ?
J'ai pas envie que ça continue comme ça, donc je vais essayer de changer les choses. Et eux aussi, ils doivent faire des efforts, mais c'est moi aussi. Voilà.
Bonjour à tous, c'est Un Jour en France. Montez le son de la radio juste pour enquiquiner les parents. Dire stop plutôt que non, formuler les choses de manière positive, comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant pour analyser ses colères, ses blocages et sortir des crises quotidiennes, lui offrir toujours un choix, éviter les rapports de force. Voilà quelques principes de l'éducation bienveillante ou positive. Elle s'appuie sur les progrès des neurosciences, s'éloigne de la psychanalyse, fait de la gestion des émotions, des petits et grands, un principe cardinal. Alors est-ce du bon sens? Élevé au rang de théorie, est-ce une porte ouverte au laxisme et à l'enfant roi? Reportage de Lénora Krief dans un atelier d'éducation positive. Et en studio, l'une de ses ferventes adeptes en France, Isabelle Filioza. Et pour dialoguer avec elle, si nous arrivons à le joindre et même le localiser, le pédopsychiatre Stéphane Clergé. Stéphane Clergé, si vous nous entendez, nous vous attendons. Et puis vous, bien sûr, au standard et par mail, vos questions, vos témoignages sont aussi attendus.
En France, Bruno Duvy.
Vous n'y arrivez plus au milieu des disputes de vos enfants, des colères et des caprices. Vous êtes en quête de solutions. Comment réagissez-vous vous-même, adepte de l'éducation positive ou d'autres méthodes? Nous vous attendons au standard 01 45 24 7000 et notre mail c'est unjouren france@radiofrance.com. Il y a aussi la page de l'émission Un Jour en France sur franceinter.fr et même l'application sur vos téléphones portables. Cours d'éducation dans un instant. D'abord à 10h10 sur...
Un jour en France.
Salut Teddy Scipulli.
Bruno Duvic.
Et Domina.
Vous pouvez vous asseoir.
Sur France Inter.
Bonjour. Tout va, enchanté. Je vous laisse entrer. Prenez vos sacs, vous allez écrire.
Extrait d'un atelier d'éducation positive, nous allons en entendre plus longuement dans un instant. Gros succès de cette philosophie de l'éducation dans la presse parentale, en librairie, sur le net et donc dans des ateliers, des stages pour les parents. Bonjour Lénora Krief.
Bonjour Bruno.
Vous avez assisté à l'un de ces stages en région parisienne.
Oui, intitulé « Stop aux crises, je gère ». Cet atelier est animé par Alix Naudy, psychopraticienne, un nouveau statut pour désigner les psychothérapeutes qui ne sont pas passés par la faculté. Elle a suivi votre formation, Isabelle Filioza. Avant, dans les Hauts-de-Seine, où je me suis rendue ce samedi matin, 7 parents, dont 2 couples, étaient inscrits.
Et quel est le coût, au passage, de ces ateliers ?
200 euros pour un couple et 120 euros en individuel. C'est le prix de ce stage programmé sur 3 matinées de 3 heures.
Et les parents sont invités à travailler à partir d'une situation concrète.
Oui, répartis en 2 groupes, ils doivent chacun définir une situation difficile avec leurs enfants en tentant d'être le plus factuel et détaillé possible, sans interprétation donc, et partager entre eux leurs impressions.
Vous pouvez bouger les chaises. Par contre, je demande au couple de se séparer.
Bon, moi, je vous donne une petite situation. La situation qui est arrivée hier soir. Il est 19h30 à peu près. Donc, je suis avec mes 2 enfants. Je vais parler de la grande, là, cette fois-ci. Donc, on est dans le salon. Elle n'a pas fini ses devoirs. Il doit rester 2 exercices de maths. La table du salon, elle veut pas travailler dans sa chambre. Ouais, dans le salon.
L'âge de tes 2 enfants ?
Elle a 11 ans, elle est en 6e, et le petit, il a 8 ans. Donc lui, il a fini ses devoirs depuis longtemps, il est en train de jouer souvent dans le salon aussi, d'ailleurs, pour pas arranger les choses. Et elle, elle est sur la table du salon, là, tout, il y a tous les cahiers et les livres. Il reste deux exercices de maths, il est 19h30, donc on mange dans à peu près 10 minutes. Et elle est allongée par terre en train de jouer sur son portable. Donc je lui dis, est-ce que tu peux finir tes devoirs? Et puis elle me dit, oui, oui, bien sûr. Voilà, ça commence toujours par attends, dis sur un ton plus ou moins patient. Et on va lui dire, je vais lui dire 10 fois, donc forcément, fais ton travail. Et puis au bout d'un moment, elle va s'énerver. Et puis elle va dire, oui, mais on a le droit de jouer aussi. Et puis ça se finit mal parce qu'elle crie. Après, sa maman va rentrer. Puis ça va continuer encore. Voilà un exemple. Ça arrive souvent, quoi. Surtout avec elle. Elle a du mal à la pression du temps, quoi.
Est-ce que vous vous retrouvez, vous, dans ce genre de situation?
Oui, plus ou moins, oui. Notre fille, donc, qui va avoir 3 ans dans 2 mois, c'est lorsque soit je refuse une demande de sa part, soit quand je demande quelque chose à Chiara, ces deux causes engendrent un sentiment de frustration certainement chez elle, et en tout cas des cris, des pleurs. On est dans la rue et elle s'écroule sur ses jambes, voilà, et elle ne veut plus marcher. Donc elle commence à être grande et je ne peux pas la porter sur moi non plus en permanence. Et donc là, c'est très difficile.
C'est difficile. Moi, j'ai retenu un truc, c'est que c'est difficile. Tu as du mal à comprendre ce qu'elle voulait exprimer parfois. D'autant plus qu'elle n'a pas toujours les mots pour le dire, en fait. Hein?
Tout à fait, oui.
Quand vous avez terminé, ouais. Vous mettez sous une échelle, en bas il y a une échelle.
J'évalue la difficulté que je rencontre sur cette échelle. Donc 0, c'est je garde le sourire, et 10, c'est insupportable.
Alors vous, quel est votre chiffre?
Ça dépend de mon état. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est très difficile à gérer. Une fois qu'elle a basculé dans la crise, qu'elle s'écroule sur elle-même, qu'elle est en pleurs, qu'elle crie, qu'elle est, voilà, ingérable. Ouais. Alors j'ai mis 8.
Ce qui veut dire que vous ne gardez pas le sourire.
Non, je ne garde pas le sourire. Non. Il faut être très serein, très reposé, très zen, très détaché. Il faut être moine bouddhiste, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient des enfants.
C'est pour ça qu'ils sont zen. Ouais. Vous êtes tous à 8?
Moi j'ai mis 7.
7, ouais.
Moi, j'ai mis 8 aussi.
Vous n'avez pas osé mettre 10 ou
Non, parce que j'imagine que 10, alors, ça veut dire qu'on perd tout contrôle. 10, c'est quand on, je sais pas moi, on les jette par la fenêtre, je sais pas moi, je rigole, mais c'est ça, quoi.
En studio, dans le studio d'Un jour en France pour commenter ce reportage, et nous retrouverons les ateliers avec Lénora Krief dans une dizaine de minutes. Isabelle Filiosa, bonjour madame.
Bonjour Bruno, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes l'une des principales animatrices en France de ce courant de l'éducation positive. Parmi les livres que vous avez publiés récemment, J'ai tout essayé ou Il me cherche, aux éditions Marabout, après avoir été aux éditions Jean-Claude Lattès. Je voudrais qu'on revienne sur la situation qu'on a entendue dans le reportage, dans le générique. Cette jeune femme qui a des garçons de 11 et 13 ans qui ne veulent pas dormir. Tous les soirs, ils ne veulent pas dormir. Elle dit, je voudrais bouquiner, je voudrais me coucher, j'ai mal au dos. Que faire?
Alors, le problème, c'est que nous, les parents, on veut tout de suite faire quelque chose, être au contrôle de quelque chose. Mais plutôt que faire tout de suite, on a d'abord besoin d'analyser le problème. Quel est le souci? Qu'est-ce qui empêche ces deux enfants de dormir? Bon, ensuite, 11 et 13 ans, ils sont probablement déjà suffisamment autonomes pour que la maman aille se coucher. Maintenant, elle n'a pas confiance dans le fait qu'eux vont se coucher suffisamment tôt.
Bah, manifestement, donc, ils ne veulent pas.
Et non. Mais après...
Et c'est normal qu'il y ait une heure de coucher.
Tout à fait. Et donc 13 ans, normalement, selon les études scientifiques, c'est plutôt 11 heures. Donc est-ce que la maman permet que l'enfant se couche à 11 heures? Beaucoup de parents croient qu'un enfant doit se coucher impérativement à 8 heures. Alors c'est vrai pour un enfant de 7 ans, 8 ans, etc. Ça va être à peu près l'heure appropriée.
11 heures pour un enfant de 13 ans?
Et oui, parce que la mélatonine se décale. La sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone qui nous fait, qui nous donne envie de dormir, qui permet que notre cerveau s'endorme, ça se décale au moment de l'adolescence. Donc à partir de 13 ans, boum, ça se décale et ça se recale un petit peu plus tard, vers 18-19 ans.
Sauf que le réveil pour l'école va sonner à 7 heures.
Hélas, mais ça c'est un problème. C'est que notre institution scolaire ne respecte pas les besoins des enfants parce que un adolescent ne devrait pas avoir à se réveiller avant 9 heures le matin.
Alors cela dit, l'école étant ce qu'elle est, le réveil sonne à 7 heures, il est légitime de demander à un ado de se coucher avant 11 heures?
Non, parce que si on lui demande, il va forcément se rebeller. Ce qui est légitime de faire, c'est de lui dire « C'est vrai, tu as totalement raison, c'est pas un rythme approprié pour toi. C'est pas juste, et c'est comme ça. Notre société, elle est comme ça. Donc soit tu vas pas à l'école du tout, soit tu vas à l'école, et du coup, ben, il y a ces trucs à respecter. » Et donc là, plutôt que de lui dire « je te demande », on va lui dire « comment est-ce que tu vas faire pour réussir à te lever à l'heure ?»
Et ça suffit à amener un ado à se coucher un peu plus tôt ?
Oui, parce qu'on lui donne du pouvoir sur sa façon à lui de faire. Et donc, au début, il va exagérer. Au début, il va commencer à être dépasser l'heure, etc. Et à d'autres moments, il va pouvoir, petit à petit, il va trouver sa juste heure.
Cette jeune femme disait dans le générique « Je ne crie pas de temps en temps, je crie tout le temps ». Alors, tout le temps, c'est évidemment pas une solution. Est-ce un drame un soir de hausser la voix sur le thème « Les enfants, je suis claqué, maintenant, allez-vous coucher, moi j'ai besoin de repos ».
Heureusement que c'est pas un drame, parce que ça nous arrive à tous, absolument à tous. Ça arrive à nos enfants de crier, ça nous arrive à nous de crier, et donc c'est pas un drame de crier de temps en temps parce qu'on est épuisé, d'autant que l'enfant peut tout à fait mesurer qu'on est épuisé et que c'est pour ça. Par contre, on le lui dit, on verbalise, oui, je suis épuisé et c'est la raison pour laquelle je crie. On lui dit pas, je crie parce que tu es méchant.
Un enfant peut comprendre les hauts et les bas des émotions de ses parents à partir de quel âge ?
Oh, je dirais qu'il les perçoit. À vrai dire, les études montrent, même quand on est fœtus dans le ventre de sa maman, on réagit aux émotions de maman. Donc, on les perçoit. Après, être conscient, ça dépend de l'éducation qu'on va mener. Et c'est ça, justement, qu'on faisons dans l'éducation positive, c'est enseigner à l'enfant à repérer les émotions, à comprendre ce qui se passe, à identifier, et petit à petit, à maîtriser aussi les siennes propres.
Un mot, Isabelle Filiosa, vous avez déjà à deux reprises là dans notre conversation fait allusion à des études. L'éducation positive repose beaucoup sur les neurosciences, immense progrès en matière de sciences et de médecine. Cela dit, est-ce qu'on peut s'appuyer sur une science pour revendiquer des choix en matière d'éducation qui est par définition quelque chose de mouvant ? Dans un autre domaine, je me souviens que quand moi j'étais bébé, il fallait mettre les bébés sur le ventre et puis mes enfants, il fallait les mettre sur le dos. Et à chaque fois, les médecins nous disaient ça du haut de leur science. Est-ce qu'on peut se revendiquer d'une science en matière d'éducation ?
Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors déjà, j'ai écrit « Au cœur des émotions de l'enfant » il y a plus de 20 ans, donc il n'y avait pas encore toute cette science. Cette science étaye et vient expliquer. Mais par exemple, là, le papa nous a dit tout à l'heure « Quand je refuse quelque chose dans la rue à ma fille, elle a 3 ans, elle s'écroule sur ses jambes et il rajoute « Elle ne veut plus marcher ». Évidemment, quand on n'a pas la science pour comprendre le comportement de l'enfant, on se dit « elle ne veut plus marcher ». On pense que c'est quelque chose qui est dirigé contre nous, que la fille nous en veut et qu'elle joue du pouvoir sur nous pour nous obliger. Et la science nous dit « attention, si nous élevons le ton devant un enfant, nous fronçons les sourcils devant un enfant, automatiquement, il va y avoir une chute de son tonus musculaire. »
Ça, par exemple, moi, j'arrive pas à le croire. Voilà.
Eh bien, vous n'avez pas besoin de le croire parce que ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. C'est juste de la constatation. Il suffit de mettre des capteurs sur les muscles d'un enfant ou même d'un adulte, parce que même pour nous, ça fonctionne comme ça. On regarde une image, même une image, même pas quelqu'un de vrai, qui fronce les sourcils, automatiquement, notre tonus musculaire baisse.
Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut même pas lever les sourcils devant un enfant ?
Ben, c'est pas utile, ça dépend. Si on veut le stresser, c'est une très bonne idée. Mais si on a envie que l'enfant apprenne, se débrouille, etc., nous avons tout intérêt à ne pas le stresser.
Et là, on parle d'enfant de quel âge ? Quel que soit l'âge, ça vaut ce que vous dites là, par exemple.
Eh bien oui, puisque c'est même pour les adultes. Ouais.
Alors, il y a beaucoup de réactions au standard de gens très reconnaissants à l'égard de l'éducation bienveillante et positive, et notamment Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous êtes à Nantes et vous êtes assistante en famille d'accueil, c'est ça ?
Je suis assistante familiale, voilà,
assistante
donc famille d'accueil.
Oui.
Et c'est pas que j'avais beaucoup de soucis, mais bon, quand même un petit peu, l'enfant que j'accueillais était différente de ma fille, qui était très très cool. Et ben, je criais beaucoup, je l'avoue. Et sur vos antennes, un jour, vous avez parlé de la discipline positive de Jen Nielsen. Je l'ai acheté et c'est devenu un peu mon livre de chevet, ma référence. J'en ai noté des choses, fermeté en fait, la discipline positive n'enlève pas la fermeté, je pense qu'il faut être cohérent, quand on dit quelque chose on s'y tient, mais rajoute de la bienveillance, de la compréhension et essaie de tisser une coopération avec l'enfant en fait, voilà ce que disait tout à l'heure votre intervenante, d'amener l'enfant quelque part, lui donner du pouvoir, lui dire le rendre acteur. Et c'est vrai que ça a changé les choses, quoi. Ressortir les côtés positifs plutôt que de toujours sortir le négatif où on met que ça en valeur. Ben, en les oubliant un peu, ces points négatifs, et en ressortant que le positif, on change complètement la donne. Alors, ça marche pas toujours. Je crois, en fait, c'est soi-même, en fait, qu'il faut constamment recadrer plus que l'enfant.
Mais est-ce qu'on peut se recadrer tout le temps dans des circonstances de la vie? Il est 19h, on a une journée de travail longue et difficile dans les pattes. Il est parfois difficile de se recadrer soi-même. On n'est pas parfait.
Ben non, moi je l'avoue. Et du coup, j'apprécie infiniment quand mon mari rentre du travail où lui, entre guillemets, il est fatigué de sa journée de travail, mais il est tout frais dans son contact aux enfants. Et il prend aussi ce relais. Et moi, je me mets un peu en retrait parfois. Et voilà, parce qu'effectivement, on ne peut pas être 100%. On n'est pas des machines.
Merci pour ce témoignage, Caroline. Isabelle Filioza, Caroline nous disait, cela n'exclut pas la fermeté. Vous êtes d'accord avec ça? Et comment se manifeste-t-elle, du coup, la fermeté?
Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement fermeté dans l'esprit de notre auditrice là, mais ce qui est clair, c'est que l'éducation positive n'est en aucun cas du laxisme. L'objectif, c'est de vraiment permettre que l'enfant sache respecter des règles. Donc, nous allons, oui, poser des règles, et quand il est tout petit, c'est nous qui les posons, petit à petit, on les pose ensemble. Les règles, c'est ce qui nous permet de fonctionner ensemble, et la nouveauté, c'est que les enfants adorent les règles. Ils aiment les règles à condition qu'elles soient fonctionnelles, utiles et performantes. En revanche, ils détestent les limites et les interdits. Donc, si nous posons un interdit à un enfant, là, pour moi, c'est dangereux et c'est du laxisme. Si, par exemple, on dit à un enfant de 18 mois, « Tu ne touches pas cette porte », on peut être à peu près certain que l'enfant va approcher, va lancer sa main vers la porte. En nous souriant, il va ouvrir la porte. Parce que c'est un fonctionnement naturel du cerveau de l'enfant. Il cherche à s'approprier la consigne, il ne comprend pas la négation. Donc quand maman ou papa dit « ne touche pas à cette porte », l'enfant il entend « touche porte » et il y va. Par contre, en éducation positive, on lui dit « la porte reste fermée ». Et du coup, ça...
On ne dit pas « ne cours pas, mais marche ».
Voilà.
On ne fixe pas de limite, dites-vous ?
Non, parce que chaque limite, justement, va être tenté de transgresser. Nous avons tous un cerveau préfrontal, et même si le cerveau préfrontal de l'enfant est embryonnaire, il est en début de construction, il ne se terminera qu'à 26 ans, mais même si il y a ce cerveau préfrontal qui nous donne notre libre arbitre, nous avons absolument besoin d'exercer notre libre arbitre, et tous les humains vont résister à la contrainte. Dès qu'il y a une limite, paf, on a envie de la franchir. En revanche, les règles, on les respecte. Et c'est ça que souvent les adultes ne savent pas bien faire, c'est la différence entre une règle et une limite. Par exemple, une règle, c'est les feutres sur le papier. Parce que si on met des limites aux feutres, ben, de toute façon, on ne pensera jamais à toutes les limites qu'il faut mettre.
Donc c'est une question de formulation, au fond.
C'est une question de formulation, tout à fait, mais aussi de intention. C'est-à-dire, la pédagogie classique, hein, c'est de dire tout ce qui ne va pas. Remarquer ce qui est erroné et souligner à l'enfant son erreur. Or, les enfants n'apprennent pas bien de l'erreur. En revanche, si on leur enseigne en constructif, c'est-à-dire on leur enseigne, mais voilà la méthode pour pouvoir faire. Les enfants adorent savoir la méthode. Ils aiment s'approprier les méthodes.
L'école commence à 8h20. Elle est obligatoire tous les jours. C'est une règle ou une limite ?
L'école n'est pas obligatoire. Hein. C'est l'instruction qui est obligatoire. Donc ça peut être une règle. Et pour redonner du pouvoir à un enfant, c'est important peut-être de lui donner une possible... Du coup, déjà, ne jamais lui dire que c'est obligatoire, parce que c'est faux. Il ne faut pas enseigner des choses fausses, pas mentir à nos enfants.
L'instruction est obligatoire.
L'instruction est obligatoire et nous choisissons que ce sera à l'école.
Ce qui est ultra marginal, de choisir de ne pas le faire à l'école.
Oui, mais ça n'empêche que c'est la... Voilà, c'est important que pour qu'ils respectent les lois, c'est important que nous ne trichons pas non plus avec les lois et qu'on ne s'abrite pas derrière les lois pour dire que c'est notre choix.
Pas de là à dire un gamin ne va pas à l'école.
Bien sûr. Ah ben non. Donc, le choix... Mais par contre, on peut dire, oui, ne va pas à l'école. Tu peux, pendant toute l'année, tu as deux jokers. Donc, deux journées, tu peux ne pas aller à l'école. Tu choisis ton joker quand tu veux. C'est hallucinant. Des gamins de collège vont, du coup, peut-être dire, ben, tiens, là, je vais pas une matinée, puis une matinée. On a le droit de diviser en quatre morceaux plutôt qu'en deux jours. Du coup, chaque matin, l'enfant se pose la question « j'y vais ou j'y vais pas ?» Et c'est mon choix. Et donc voilà, redonner du choix aux enfants, redonner de la liberté, ça n'est pas leur laisser tout faire et accéder à tous leurs désirs à n'importe quel moment. Ça, ce serait toxique. Ce serait en fait ne pas entendre leurs vrais besoins. Leur vrai besoin, il est de libre arbitre, de décider. Et donc, il suffit de 2 journées de liberté. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des enfants qui ne les utilisent jamais. Mmh. Et ils arrivent à la fin de l'année, mais ils ont eu le sentiment de choisir d'aller à l'école chaque matin.
Les règles de politesse, on dit bonjour, on dit merci, on dit s'il vous plaît.
Oui, ce sont des règles, bien sûr. C'est très important. Et ce qui est important, c'est de montrer l'exemple. Trop souvent, dans la classe, par exemple à l'école, les enseignants arrivent, ils ne disent même pas bonjour aux élèves. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer que ce sont des règles de politesse et de respect envers autrui si c'est dit comme ça ou pas dit ? C'est-à-dire que nous enseignons le plus par modélisation.
Donc là, il y a une valeur d'exemplarité, de modélisation.
Tout à fait.
Mais du coup, ça ne se négocie pas. On dit bonjour, on dit merci, on dit s'il vous plaît.
Ah ben, une règle se négocie toujours. C'est-à-dire que c'est la différence. Ça veut dire quoi, se négocie pas? C'est-à-dire que, en fait, l'enfant n'est même pas là-dedans. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans une dynamique où forcément il va y avoir conflit et forcément l'enfant va ne pas vouloir faire quelque chose. Les enfants adorent faire bien. C'est ça que nous ne maîtrisons pas. On parle des enfants de 2 ans comme insupportables. Mais un enfant de 2 ans, c'est un enfant qui adore les règles. Il aime que les choses soient bien correctes, etc. Et donc, si on formule les choses en termes de règles, il va s'en emparer, il va adorer ça. En revanche, c'est vrai que les enfants ne vont pas dire bonjour spontanément à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans la rue. Mais on leur a dit aussi, surtout, tu parles pas à n'importe qui dans la rue. Donc voilà, nous, on connaît la personne, on sait que c'est le poissonnier, donc on a un rapport avec cette personne. L'enfant, il a besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir réussir à dire, parce que lui, il est encore dans le vrai bonjour. Il n'est pas dans les automatismes de politesse superficielle. Lui, il veut que son bonjour, il vienne de l'intérieur.
Là, vous parlez d'un enfant de quel âge? Et on retourne au portail.
Ben là, on parle d'un enfant de 2 ans.
De 2 ans. Et ça vaut à 5-6 ans, ce que vous venez de dire?
En général, c'est davantage acquis à ce moment-là.
Retour au reportage avec vous, Lénora Krief, toujours à l'atelier de parentalité positive intitulé « Stop aux crises, je gère ». On l'a compris en partie dans ces premières minutes d'émission, la parentalité positive, c'est aussi travailler sur les émotions des parents.
Tous concernés par les principes de la parentalité bienveillante, les 7 parents présents assistent pour la première fois à un atelier, comme avec les enfants, pour un bon fonctionnement. Au commencement, un certain nombre de règles sont instaurées, comme l'absence de jugement entre parents. Si quelqu'un s'écarte du sujet, on s'autorise à lui couper la parole et le ramener dans la conversation, sans oublier la ponctualité et la confidentialité du vécu de chacun, qui doivent aussi être respectés.
Alors, témoignages de parents et les recommandations, presque les éléments de cours, peut-on dire, d'Ali Snoddy qui anime l'atelier. D'abord, premier témoignage, une femme enceinte de 38 ans, mère d'une fille de 3 ans et d'un petit bébé de 3 mois et demi.
Après la naissance de mon fils, il y a eu des périodes très difficiles pour ma fille et pour nous, évidemment, avec des grosses crises, des colères et puis beaucoup de fatigue. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Mais voilà, j'avais vraiment besoin aussi de voir d'autres parents aussi qui étaient un peu dans ces mêmes problématiques.
Ça vous parle, la parentalité positive ?
Oui, oui, complètement. Oui, tous les jours, j'essaye de me donner cette règle, mais c'est avec la fatigue, les rythmes et tout, c'est vraiment compliqué. Moi, ça m'arrive de punir, mais je veux toujours éviter cette situation parce que j'ai pas l'impression que ce soit très positif pour elle. Mais des fois, j'en pleure tellement plus que ça m'arrive de l'isoler dans sa chambre. Et bon, après, je regrette, évidemment. Ces ateliers, ça sert peut-être aussi à éviter de punir pour rien.
Alors, je reviens à mes règles. Pour vous sentir bien, en sécurité, de quoi est-ce que vous avez besoin?
Pour la prise de parole.
Pour vous sentir, oui, pour vous sentir, vous, à l'aise.
Bah, sans jugement, en fait, parce que chaque histoire est personnelle, mais...
Vous souhaiteriez qu'il n'y ait pas de jugement.
Ouais.
En fait, que souvent, quand on émet un jugement, c'est que soi-même, on est touché. Il y a quelque chose qui vient résonner en nous, et donc, on n'a pas forcément envie de sentir ce qui se passe en nous. Et clac, on émet un jugement. Donc, moi, ce que je vous propose comme règle, c'est que quand quelqu'un émet un jugement, ben, on lui demande ce qui se passe pour lui et quel est son besoin. Vous, ça vous entraîne ? Comment vous allez faire ça avec bienveillance? Et après, comment vous pouvez faire ça avec vos enfants, avec tact?
J'ai 36 ans. J'ai 3 enfants. L'aîné a 7 ans, le deuxième 5 ans. Le troisième va avoir 3 ans.
Qu'est-ce qui vous amène ici, dans cet atelier?
l'envie de trouver des solutions qui me plaisent plus que celles qui sortent spontanément, que j'ai intériorisées, je pense, de par mon éducation en général. Hein. Voilà, d'essayer d'avoir une ambiance de famille qui soit plus sereine et plus agréable pour tout le monde.
Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez particulièrement avec vos enfants ?
C'est beaucoup des disputes. Ces trois garçons, c'est assez tonique. Des moments de grande excitation complètement incontrôlables et des moments de blocage aussi. Je fais la tête, je m'enferme dans ma chambre et il n'y a plus rien à faire. Et voilà, et là, je ne sais pas comment faire, comment réagir.
Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une impasse hein.
Complètement, je ne sais plus quoi faire, du tout. Et c'est effectivement dans ces moments-là où je sens que ça peut déraper, moi aussi. Ouais.
Déraper dans quel sens ?
Ben, je peux rentrer dans une grande colère, voilà, je peux arriver à la contrainte physique. Voilà, ça m'est arrivé de taper, ça fait longtemps maintenant. Voilà, depuis toutes mes lectures, j'arrive maintenant à contrôler ça, mais voilà, c'est pas quelque chose que je souhaite pour mes enfants.
Ça engendre chez vous un sentiment de culpabilité, d'être amenée à les frapper, par exemple ?
Oui, ça me rend malheureuse, je dirais plutôt. Je pense que ça les abîme. C'est pas quelque chose de souhaitable pour leur développement.
Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants de cet atelier ?
Je leur ai dit que c'était l'école des mamans ce matin, mais je suis pas rentrée dans les détails.
On sait bien qu'on n'a pas envie de crier, on n'a pas envie de taper, on n'a pas envie de contraindre physiquement. Et pourtant, vous dites, pourtant, je le fais. Et qu'est-ce qui fait qu'on sort de nos gonds comme ça ? Ben c'est le stress. Le stress, c'est chaque fois que, pour un événement heureux, un mariage, un anniversaire ou autre, on a à s'adapter. Ça veut dire que la glande qui est dans le cerveau, qui s'appelle l'amygdale, va envoyer des hormones. Ce qu'on appelle les hormones de stress. Et le corps réagit. Donc c'est très très physiologique. Vous allez avoir les trois réactions. Ou le corps se prépare à attaquer, ou le corps se prépare à fuir, ou alors, si le stress est vraiment très important, le corps se fige.
Le lapin pris dans les phares de la voiture.
Voilà. Le lapin pris dans les phares de la voiture, d'où l'importance de gérer son propre stress. Et sinon, on reste dans l'action-réaction.
Ça nous dit aussi beaucoup de choses sur nos enfants, parce qu'on parle de colère, on parle de cris, on parle d'agressivité, eux aussi subissent le stress.
Exactement.
Merci Léonora Krief pour ce reportage au Standard d'un jour en France. Nous avons Charles. Bonjour Charles.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Caen.
Oui, c'est ça.
Nous vous écoutons.
Voilà, moi je suis professionnel de la petite enfance et donc j'ai pu assister à plusieurs reprises à des ateliers ou des conférences sur la communication bienveillante et voilà les différentes techniques un petit peu qu'on pouvait proposer aux parents pour favoriser leur relation avec leur enfant. Moi ce que je me demandais c'était quelle place on pouvait leur laisser au niveau de la spontanéité en fait de leur relation avec l'enfant et est-ce que ça risquait pas de fausser cette relation en fin de compte à toujours chercher à se maîtriser, à utiliser des techniques qui sont préécrites et qui correspondent pas forcément toujours à la situation parce qu'en plus les parents sont un petit peu laissés face à eux-mêmes avec ces différentes techniques-là. Donc voilà, c'était un petit peu ma question sur comment on pouvait voir cette relation qui au final était dirigée par certaines règles et qui n'était pas forcément une relation qui pouvait être vraie avec l'enfant.
Isabelle Filioza qui est notre invitée pour un peu plus de 5 minutes encore, vous répond sur France Inter, Charles.
Alors déjà, la plupart du temps, ce qu'on fait d'habitude, ça n'est pas de la spontanéité, c'est des automatismes, hein, des automatismes dont nous sommes finalement les objets, et c'est venu souvent de notre enfance, du stress. En fait, ce type de parentalité va réintroduire la spontanéité. C'est vrai que dans un premier temps, comme pour un nouveau langage, il va falloir apprendre et donc être un peu plus attentif à la manière de formuler les choses, etc. Mais comme un nouveau langage, si on apprend l'anglais, ben au début on peine un peu et c'est pas très spontané. Et puis, une fois qu'on a acquis les automatismes, les bons automatismes, ce coup-ci, ceux qui fonctionnent, parce que si les gens adorent et s'engagent et vraiment viennent de plus en plus et lisent ces livres, c'est que c'est efficace. Notre objectif premier, c'est l'efficacité. Et donc, la spontanéité vient rapidement parce que le parent apprend très vite quand il voit à quel point c'est efficace et rapidement.
Remarque de Marjorie sur notre mail. Les parents ne sont pas des figures bienveillantes et neutres dans leur relation avec leurs enfants. Je crois que ça ne peut mener qu'à une plus grande culpabilisation des parents. Et comment vont s'adapter les enfants dans un monde hiérarchique classique, type école, travail? C'est l'argument classique qui consiste à dire qu'au fond, la frustration permet de poser des limites, de structurer l'enfant, de le préparer aux difficultés qu'il rencontrera dans la vie. Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, les parents ne sont pas des figures bienveillantes et neutres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Les parents ne sont pas des figures neutres, c'est certain. On a toute notre histoire derrière nous. Et pour quelles raisons on penserait qu'ils ne sont pas bienveillants? Je pense que tous les parents sont bienveillants. C'est-à-dire qu'on cherche à faire le mieux pour nos enfants.
Est-ce que vous diriez que ce sont des partenaires ou qu'ils se placent tout de même, d'une certaine manière, au moins symbolique, au-dessus de l'enfant?
Alors, on n'est pas forcément dans des histoires de rapport de pouvoir, mais l'enfant nous regarde avec des yeux éblouis, il nous admire, il nous écoute et il sait. C'est pour ça qu'il nous confère une autorité naturelle et qu'il va écouter spontanément tout ce que nous lui demandons. Parce que si on ne se bloque pas avec lui, si on ne le réprime pas et si on lui fournit ce dont il a besoin, si globalement on est attentif à ses besoins, lui aussi va respecter et nous écouter. Et nous sommes une autorité, nous sommes le parent. Nous avons la responsabilité d'assurer sa survie et son éducation.
Le fait, Isabelle Filiuaza, que la frustration participe à la structuration d'un enfant et le prépare aux difficultés qu'il va rencontrer dans la vie,
tout
aux contraintes, aux limites.
Tout à fait, sauf que l'interprétation est erronée. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est important d'enseigner à un enfant la frustration, mais on enseigne la frustration, la gestion de la tolérance à la frustration, on l'enseigne non pas en frustrant l'enfant, mais en lui fournissant un maximum d'attachement. Les expériences de Walter Michel sur très connues sur l'histoire du chamallow, on donne un chamallow à un enfant tout de suite et l'expérimentateur sort et il dit « si tu attends que je revienne, tu auras deux chamallows ». Tous les enfants veulent deux chamallows, mais en dessous de 3 ans, ils sont absolument incapables de se retenir, donc ils le mangent très rapidement. Et même à 5 ans, un tiers mange le chamallow avant de réussir. Qu'est-ce qui fait la différence? Les enfants qui réussissent à tolérer la frustration sont ceux qui ont le meilleur attachement, ceux qui sont sûrs de l'adulte, ceux donc qui ont reçu qui peuvent faire confiance à l'adulte parce qu'ils savent que l'adulte va répondre à leurs besoins, et ceux qui ont des techniques. C'est-à-dire, si on enseigne à l'enfant, tu imagines que ce chamallow est seulement une bulle de coton. C'est-à-dire, on lui donne une stratégie pour qu'il réussisse à attendre. Alors oui, il attend. Et donc, c'est ça la parentalité positive, c'est ça la parentalité empathique, c'est donner de l'attachement à un enfant, lui fournir la liberté de faire ce qu'il fait. Mais la liberté, c'est la responsabilité, hein, c'est pas le laisser tout faire, c'est responsabilité, et lui fournir les techniques donc qu'il peut utiliser pour réussir à faire ce que nous lui demandons.
Là encore, on parle d'un enfant quoi? De 4, 5 ans, 6 ans?
Là, c'est 5 ans.
Philippine, au standard d'un jour en France. Bonjour Philippine.
Oui, bonjour tout le monde. Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Oui. Rien que d'écouter encore, c'est tellement extraordinaire ce que vous dites, madame. C'est merci beaucoup de nous aider comme ça à trouver notre posture en tant que parents, je trouve, avec nos enfants. En revanche, justement, quand on est fatigué, énervé, stressé par le rythme, notamment le matin pour aller à l'école et arriver à tout faire, est-ce que vous auriez des trucs un peu pour arriver à envisager voilà le départ de façon zen et positive avec nos enfants?
Merci pour cette question.
Alors déjà, les lever un tout petit peu plus tôt pour avoir le temps de faire des câlins, de faire des jeux aussi. Il suffit parfois de juste un ballon en mousse dans le salon qui a lancé un tout petit peu de rire dès le matin. Ça remplit le réservoir du parent, ça remplit le réservoir de l'enfant. En fait, on sent la connexion. Il s'agit de se sentir connecté l'un à l'autre dès le matin. C'est vrai que c'est pas simple parce qu'on est prisonnier d'un rythme effarant qui ne correspond pas aux enfants, mais qui ne nous correspond pas à nous non plus, les parents.
Encore deux messages, Isabelle Filiuaza, et puis cette émission arrivera à son terme. Béatrice, ras-le-bol des neurosciences et des thérapies comportementalistes. Oui, je râle, je m'emporte, je fronce les sourcils, mais je parle aussi, j'encourage, je m'adapte comme je peux à la situation, je me plante aussi, j'essaie de le reconnaître. C'est certain, je suis pas à 100% de réussite dans l'éducation de mes fils, mais je ne suis pas une machine, je revendique mon humanité. Il y a beaucoup de messages. Alors encore une fois, beaucoup, beaucoup de messages sur le thème. Merci. Et d'autres sur le thème, ça nous culpabilise.
Et oui, mais c'est ça qui est terrible. De toute façon, les parents se culpabilisent toujours. Mais c'est, on se dit, ah, oh, mais je fais pas ça, donc je ne suis pas parfait. Et hop, on se fait enfermer dans cette culpabilité. Mais il s'agit pas de l'histoire de être mauvais parent ou quoi. Il s'agit juste que nous découvrons qu'il y a des techniques plus efficaces. Et donc, pourquoi ne pas utiliser des choses qui sont plus efficaces, qui vont faire qu'on va être plus heureux ensemble, en famille, qu'au lieu de perdre son temps à se disputer avec ses enfants, parce qu'on est mal quand on se dispute avec ses enfants, eh bien, on peut trouver des clés. Avant, on ne comprenait pas nombre de comportements des enfants. Maintenant, grâce aux neurosciences qui nous rendent, moi, ça, je trouve ça fascinant, ça me rend encore plus humaine que de découvrir ce que vit un enfant à l'intérieur et comment fonctionnent ses neurones.
Merci d'être venue au micro d'Un jour en France ce matin, Isabelle Filioza. 10h45. Sur France Inter, c'est l'heure de French Touch. Chaque jour, un peu de France. Par